Vous m'entendez? Oui. Alors tout d'abord, je voudrais remercier le GCRL d'avoir accepté la communication que j'aurais pu sous-titrer appel à témoins, tant il est vrai que c'est un sujet qui est assez peu travaillé chez les internationalistes et sur lequel on manque encore de beaucoup de travaux. En effet, les théories des relations internationales ont fort peu intégré le fait religieux, l'analyse du fait religieux dans leurs différentes approches. Et lorsqu'on regarde les travaux des pères fondateurs français, Aron, Du Rozel, Merle, on se rend compte que l'analyse du fait religieux est absente. Elle l'est encore dans les travaux contemporains. C'est vrai en France, c'est vrai dans les classiques des relations internationales aux États-Unis. Si vous prenez par exemple l'ouvrage d'Art et Jervis, International Politics, vous verrez qu'il n'y a rien, ni dans l'index, ni dans les chapitres consacrés aux facteurs religieux. Et un de nos collègues, Daniel Philpott, a pu remarquer dès 2002 cette carence, puisque faisant la recension des trois principales revues américaines en relations internationales, il s'est rendu compte qu'il n'existait que trois articles consacrés à l'analyse des facteurs ou acteurs religieux sur une période de quasi 20 ans. Donc je voudrais revenir sur les raisons de cette absence, puis dans un deuxième temps m'intéresser aux causes d'une évolution perceptible depuis maintenant une quinzaine d'années, avant de revenir sur le début de prise en compte du fait religieux dans les principales théories contemporaines. En premier lieu, concernant les raisons d'une absence, il apparaît que trois grandes explications sont avancées dans la littérature spécialisée. La première renvoie tout simplement à l'histoire même des relations internationales du XVIIe au XXe siècle. Nugent Sandall et Patrick James soulignent ainsi dans leur article « Religion and International Relations Theory » que depuis le traité de Westphalie, le système international est devenu un système interétatique sécularisé et que jusqu'au XXe siècle, eh bien, il n'y a pas eu d'évolution dans un sens contraire, même que les deux principaux événements internationaux au XXe siècle, Première et Seconde Guerre mondiale, ne prédisposent pas à une prise en compte des religions. Dans une perspective proche, Barry Rubin dans Religion and International Affairs insiste sur l'opposition entre une période historique marquée par le schisme d'Orient, la réforme protestante, la contre-réforme et les guerres de religion, et la période post-westphalienne. Chez mes observateurs, explique Rubin, le religieux est ainsi renvoyé à des querelles théologiques dissociées de leurs éventuelles dimensions politiques. Les trois auteurs cités évoquent également plus ou moins explicitement l'usage de la notion de sécularisation dans leur propre champ disciplinaire, les sciences politiques, pour justifier l'absence constatée. C'est aussi l'approche retenue par Jonathan Fox dans son article « Religion et relations internationales » paru dans la Revue de politique étrangère en 2006 et par Jeffrey Hens dans une contribution plus récente. Fox s'appuie sur différents travaux, notamment ceux d'Adon et de Casanova, pour rappeler, je cite, que peu de prévisions avaient été proférées avec une confiance aussi inébranlable que la croyance selon laquelle la religion était en phase terminale et que la théorie de la sécularisation était peut-être la seule à avoir pu atteindre un statut véritablement paradigmatique en sciences sociales. Et dans un raisonnement connexe, il établissait qu'il en était de même avec les sciences politiques en relations internationales. Quel raisonnement sous-tendait ces prédictions, questionne Fox, et il répond celui qui posait le déclin de la religion en tant que force sociale et politique inhérent à la modernité, science et raison étant supposées la remplacer. Hens poursuit l'analyse en distinguant et associant sécularisme, sécularisation et modernité. Le religieux et la piété, explique-t-il, étaient considérés comme ayant une vocation universelle à devenir des questions privées. Et donc, pour le citer, « Religion will no longer be an important public actor », avant de conclure en traitant des sociétés industrielles, « to be modern is to be secular ». Rubin, déjà cité, abonde en ce sens en rappelant que la modernisation du tiers-monde, incluant tout à la fois la science, la technologie et le sécularisme, avait été anticipée et envisagée sur le modèle occidental par les internationalistes. Ce constat amène à prendre en compte la seconde explication pour comprendre la dissociation entre théorie des relations internationales et faits religieux. Les pères fondateurs des différentes disciplines n'intègrent guère le religieux et les théories de relations internationales de facto non plus. Philpott, dans son ouvrage consacré aux racines religieuses des théories internationales, rappelle la soumission du religieux au politique jusqu'à l'époque moderne et l'intégration de cette modernité politique chez des auteurs, selon lui, comme Hobbes, Machiavel, Rousseau ou Kant, qui, selon lui, décrivent tous un monde dans lequel les acteurs religieux ont perdu leur autorité. Dès lors, des auteurs comme l'internationaliste canadien Jean-François Rioux, comme Fox, déjà cité, ou encore comme Esposito et Watson, se retrouvent pour constater que les théories des relations internationales n'ont pu prendre en compte les facteurs et acteurs religieux. Le réalisme, explique-t-il, se concentre sur la puissance matérielle et l'intérêt national. Le libéralisme et le marxisme se concentrent l'un et l'autre symétriquement sur des facteurs rationnels et économiques. Quant à l'approche behavioriste, elle bute sur la quantification du fait religieux. Du coup, Jean-François Rioux explique que dans le grand débat qui a agité en plusieurs phases les différents théoriciens des relations internationales, les religions n'ont jamais été prises en considération. De même, ajoute Sandal et James, mauvais joueur en l'occurrence, les sociologues des religions ont eux-mêmes fréquemment dissous leur propre objet d'étude et explique-t-il, comment voulez-vous que l'on puisse traiter du religieux puisque les sociologues des religions nous expliquent que la religion n'explique pas, n'existe pas. On prendra garde néanmoins que de nombreux autres politologues, à l'instar de Jack Snyder, éprouvent la nécessité d'une définition précise de la religion afin de la prendre en compte dans leur approche théorique. Comment alors prendre et comprendre le regain d'intérêt et de prise en compte du fait religieux actuellement ? La réponse ou plusieurs les réponses se placent en quelque sorte en symétrie avec les raisons avancées pour comprendre l'absence antérieure. Dans son article déjà cité, Barry Rubin dresse la liste des événements majeurs qui, selon lui, intègrent facteurs et acteurs religieux. Au niveau national, le politologue constate les défis posés à mains états, au sein desquels la citoyenneté est mise au défi des identités particulières, religieuses ou ethniques. Rubin, contrairement à Pierre Grosser, étudiant la fin de la guerre froide, estime que le religieux, en l'occurrence le catholicisme, a joué un rôle majeur dans la disparition du bloc de l'Est sous joug soviétique, en faisant notamment référence à la situation polonaise. Bien sûr, les cas du Liban et de l'Iran semblent emblématiques aux chercheurs qui mentionnent encore l'émergence de l'islamisme tant au niveau national qu'international. Barry souligne encore un double aspect à prendre en compte, le rôle du religieux comme facteur aggravant dans la conflictualité contemporaine et la fonction protestataire des organisations religieuses. Lorsqu'on synthétise les travaux contemporains, un consensus émerge. Tout d'abord, un constat qui n'est pas une surprise, la faible mention, pour ne pas dire la quasi-absence des références à Huntington dans les analyses actuelles. La fin des religions séculières ou des idéologies politiques, cela a été évoqué tout à l'heure. Enfin, une approche fonctionnaliste insistant sur le religieux comme système de consolation, voire comme contre-système social et vecteur d'identité face à la faiblesse de l'État, ce qui nous renvoie aux thématiques des Feld et Collapse State. Enfin, je voudrais insister sur l'importance qui est accordée aux attentats du 11 septembre, qui occupent à l'évidence une place à part. C'était, on pourrait parler de l'événement au 11 septembre, qui mériterait une étude à part, au sens d'un éventuel turning point, comme l'évoquent dans leurs travaux Bessin, Bidard et Grossetti, à propos de la notion de bifurcation face aux ruptures, donc les sciences sociales face aux ruptures et l'événement. Dans le champ de l'analyse des relations internationales, le religieux a été intégré dans les études de sécurité. Je renvoie tout simplement aux travaux de l'internationaliste canadien Charles-Philippe David, qui est l'auteur d'une somme considérable, La guerre et la paix, paru aux presses de Sciences Po, et qui produit sans doute l'analyse la plus fine des enjeux en présence, en intégrant le religieux à la fois comme acteur et facteur au sein des processus de terrorisme, guerre asymétrique, de prolifération de la conflictualité, guerre civile et guerre identitaire, et des phénomènes sociaux infranationaux de violence, faisant écho en quelque sorte aux préoccupations de Ludwig, qui, je le rappelle, dès 1994, mentionnait l'absence du religieux dans les relations internationales comme, je le cite, une « missing dimension of statecraft ». C'est à partir de ces différents changements dans l'histoire même des relations internationales qu'on peut mieux comprendre la relative présence de ces thématiques dans les études actuelles. Il y a d'abord, je dirais, trois champs d'études qui commencent à intégrer ces thématiques. Je les citerai pour mémoire. Le premier champ concerne, je dirais, l'analyse des régimes politiques comparés. Et on pourrait faire référence à l'ouvrage paru sous la direction de Patrick Michel en 1997, « Religion et démocratie », qui porte sur les processus de sortie de dictature, de transition démocratique et de recomposition de la démocratie par comparaison. Et dans le sillage, un numéro de la revue d'études comparatives Est-Ouest, sous la direction de Cathy Rousselet, qui reprenait une approche comparative entre nation et religion pour comprendre les processus de reconstruction identitaire nationale dans les confins. Une seconde thématique émerge à la fin des années 90, qui travaille les liens entre globalisation et religieux, Je ferai référence simplement au colloque de l'AFSR, la globalisation du religieux, sous la direction de François Champion, Jean-Pierre Bastian et Cathy Rousselet. Et enfin, un troisième sujet d'étude qui va porter plutôt sur les acteurs des relations internationales. Dans le sillage des travaux de Badi et Smuts, je fais référence à leur ouvrage « Le retournement du monde », qui estime que les acteurs ne sont plus les seuls, que les États, pardon, ne sont plus les seuls acteurs dans les relations internationales, qu'il faut désormais intégrer aussi bien les mafias que les grandes entreprises, les multinationales et les ONG. Et donc, dans cette perspective-là, la FSR, de nouveau, en 2004, a consacré un de ses colloques aux ONG confessionnelles comme acteurs dans les relations internationales. Si on passe maintenant à un niveau plus théorique et spécifiquement internationaliste, on voit que désormais les remises en cause des paradigmes dominants sont nombreuses, même s'ils ne se traduisent pas encore par une véritable intégration du religieux à la fois comme facteur ou acteur dans les principales théories. Il existe 4 ouvrages de référence, ceux de Douglas Johnston et Cynthia Sampson. Religion, the Missing Dimension of Statecraft, c'est le premier. Un second de Jack Snyder, Religion and International Religion Theory. Celui d'Esposito et Watson que j'ai déjà cité. Et enfin, un ouvrage plus récent de Scott Thomas sur la résurgence globale du religieux, la transformation des relations internationales. Dans ce dernier ouvrage, Snyder met en évidence 4 approches théoriques. La première tente de réintégrer le fait religieux au sein même des paradigmes habituels, réalistes, libéraux et constructivistes. La seconde, au contraire, d'une certaine manière, dans le sillage d'Huntington, tente à considérer ces paradigmes comme déclassés et désormais supplantés par les conflits identitaires. Une troisième approche synthèse en quelque sorte des deux premières, élargit seulement l'analyse des relations internationales à des facteurs et acteurs autres que politiques et économiques. Enfin, existe une quatrième approche d'ambition moins théorique qui se contente d'intégrer le religieux comme facteur causal sur des sujets très précis, comme celui que j'ai déjà cité concernant la conflictualité contemporaine. Si on travaille un petit peu mieux ces différentes théories, on voit que certains auteurs parviennent à revisiter certains des concepts majeurs de chacune de ces approches. C'est le cas de Sandel et James, qui revisitent la théorie réaliste et estiment que le facteur religieux peut non seulement être réintroduit au sein des discussions sur la nature humaine, ils reprennent de manière critique les approches de Niebuhr. Et du coup, bien évidemment, ceci oblige à reconsidérer l'épistémologie sous-jacente à ce courant. Jervis, de son côté, retravaille la notion d'identité en lien avec celle de conflit, en montrant que l'identité religieuse apparaît comme une variable indépendante. Ça renvoie d'une certaine manière à la discussion qu'il y a eu dans le panel précédent. Et puis, c'est également la notion d'intérêt qui a été travaillée classiquement par Morgenthau, qui aujourd'hui fait l'objet d'une approche critique. Dans cette perspective, vous avez également des travaux qui s'interrogent sur la place du religieux dans les politiques étrangères. Bien évidemment, le cas de l'Iran est un cas emblématique où le religieux apparaît comme un des facteurs explicatifs de la politique étrangère iranienne, même si ça n'est pas le seul, voire le premier. C'est sans doute dans les travaux consacrés à la sécurité et l'élargissement de la notion de sécurité militaire à la sécurité humaine qu'on voit l'intégration la plus poussée de la notion d'acteur et de facteur religieux. Je renvoie aux travaux. En ce qui concerne l'approche libérale des relations internationales, là encore, c'est dans le domaine de la conflictualité qu'on voit des avancées théoriques. D'une certaine manière, les néolibéraux s'opposent aux réalistes qui voient le religieux comme facteur de conflictualité, alors que les néolibéraux auront tendance à insister sur les acteurs religieux comme médiateurs dans les conflits, voire comme acteurs dans les sorties de crise. Ce sont les travaux de Ledera, Marc Gopin et bien sûr le classique Turbulent Peace de Crocker, Hampson et Hall. Et enfin, bien sûr, c'est sans doute l'école constructiviste qui est la plus apte à théoriser la place du religieux. Je renvoie là encore aux travaux de Charles-Philippe David. Je voudrais juste citer une phrase de son introduction dans laquelle il dit « Dans l'approche constructiviste, les conditions matérielles ne sont plus les seuls déterminants de la sécurité. Les idées et les normes sont au moins aussi, sinon plus importantes. Elles évoluent et façonnent différemment à travers le temps l'identité du système international. » Et là, on voit que Charles-Philippe David rejoint en quelque sorte Pierre Asner sur le rôle des idées dans les relations internationales, c'est l'un de ses articles fameux, et qu'il peut ainsi souligner la plasticité d'une approche intéressée à la compréhension de la conduite des acteurs, étatiques ou non, et réintroduisant ainsi le rôle central de la culture. De facto, on comprend bien que le facteur religieux trouve un nouveau cadre interprétatif et dès que des processus comme celui d'Istanbul autour du délit de blasphème peut trouver une place non marginale et au contraire significatif dans le système international. Pour conclure, ça tombe bien, je suis presque raccord. Je rejoindrai en ce qui me concerne Jack Snyder et Scott Thomas pour estimer que les religions exercent une influence dans 5 domaines ayant trait aux relations internationales, à la fois comme système de valeurs pouvant influencer les décideurs politiques, comme groupe de pression au sein d'un État, comme acteur protestataire à niveau national ou supranational. Le politologue questionne aussi l'influence d'acteurs religieux de facto internationaux comme le Saint-Siège ou le Conseil œcuménique des Églises, ainsi que la place d'institutions intergouvernementales qui se réclament d'une identité religieuse comme l'organisation de la conférence islamique. Personnellement, j'estime que l'ensemble de ces approches sont justes, mais qu'elles demandent encore des investigations beaucoup plus poussées, car à bien des égards, ce sont des hypothèses qui sont surtout formulées. Et puis, je voudrais souligner que dans toutes ces approches, il y a un impensé, celui des théories internationales qui sont développées par les acteurs religieux eux-mêmes. Et c'est pourtant une approche classique. On retrouvera, par exemple, dès le 17e ou 18e siècle chez les Quakers, et qu'on retrouve aujourd'hui encore dans un certain nombre d'universités ménonites aux États-Unis. C'est le cas, bien sûr, pour l'Église catholique, avec toute l'approche liée à la fois au droit humanitaire international, mais même à la construction d'un système international. Je renvoie aux travaux de Taparelli d'Azeglio, qui préfigure en quelque sorte la construction de la société des nations. Et puis, il y a aussi des travaux plus contemporains désormais sur la manière dont l'islam perçoit les relations internationales. Je renvoie aux travaux de Mohamed Reza Djaili de l'Université de Genève, qui a publié un ouvrage tout à fait intéressant et qui permet en plus de reprendre dans une perspective interdisciplinaire des notions qui appartiennent à un champ totalement différent. Je pense à l'étude du catholicisme avec la notion d'intégralisme qui s'applique totalement à ce que analyse Djaili concernant l'islam. Je vous remercie.